pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Oui, quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut manger, les garçons, ça veut toujours manger la même sauce. De la viande et des patates. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Un filet de bœuf. Ah. Et après, un pavé de bœuf. Ah. Et ce soir, une côte de bœuf. Ah.
C'est des saignantes, il y a tout ce qu'il faut. Chacun sert. Hein.
Bah moi, je mange pas de viande.
Ah bon?
Ouais. Tu n'aimes pas la viande?
Non, j'en prends pas.
C'est pas grave, non, c'est pas grave. Ouais. Tu veux qu'on te fasse autre chose?
Non, moi, ça va, le taboulé, ça va.
Non, mais jamais tu manges de viande?
Non, jamais.
Ah bon?
Y a pas besoin de viande, franchement.
Sale temps pour les carnivores. Élevage intensif, conditions d'abattage, impact sur l'environnement, santé du consommateur. Peut-on avoir encore la conscience tranquille quand on plante ses crocs dans une côte de bœuf? Au sein même de la fine équipe dont on va déguster, il y a d'ailleurs des débats entre ceux qui arrêtent un peu beaucoup la viande rouge, ceux qui en mangent que par intermittence. On s'est dit qu'il était temps de remettre sur la table cette question. Comment repenser notre relation au steak? Bonjour à toutes et tous. On va évidemment tenter de décrypter les causes de notre désamour pour la viande rouge, mais on va surtout se tourner vers des solutions positives, des initiatives d'avenir. Il y a partout en France des projets très intéressants, de nouvelles filières bovines, des élevages naturels, des abattoirs itinérants. On vous en dit pas trop, mais vous allez voir que ça bouge. La viande française pourrait même faire sa révolution. Et pour en parler autour de notre plateau, Franck Ribière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur et auteur. On vous doit Steak Révolution, un livre et un documentaire qui ont beaucoup fait parler d'eux à leur époque. Hein. Enfin, à leur époque, c'était il n'y a pas si longtemps.
Pas longtemps.
On a d'ailleurs fait
une émission
à ce sujet. C'est un documentaire qui vous a fait faire le tour du monde à la recherche des viandes d'exception. Et vous revenez avec Steak in France. La question met dans nos frontières, les frontières de notre pays, un reportage en texte et en photo à la rencontre d'éleveurs, de bouchers, de restaurateurs qui pensent la viande autrement. Vous avez coécrit ce livre avec Véran Frediani et c'est publié aux éditions de La Martinière. Un professionnel qui pense la viande autrement, et bien justement on en a un ce matin, c'est Pascal Grosdoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis 30 ans grossiste en viande à Rouen, en Normandie. Vous avez bâti une filière bovine 100% locale, Normandie Viande Héritage, tournée vers le bien-être animal, le bien-être des éleveurs, l'excellence aussi dans l'assiette, car on est une émission de goût, on va évidemment s'intéresser au goût de la viande rouge. Vous allez nous raconter cette expérience qui détonne quand même pas mal dans notre paysage agricole. Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour les omnivores.
Cuisinier, expert en agroécologie, chroniqueur très régulier à cette table, sur le plateau dont on va déguster. Vous allez mettre votre grain de sel évidemment dans le débat, ça va être difficile de vous museler, absolument. Et vous allez aussi nous asséner votre coup de lame.
Un coup de coutelas en ivoire aujourd'hui.
Ah, vous allez jouer les raons.
Vous verrez.
Sylvie Augereau, bonjour.
Bonjour.
Notre chroniqueuse vent, on est ravis de vous retrouver. Sylvie.
Moi aussi, je suis ravie.
Vous allez nous raconter une histoire de bovin. Beau, plus loin vin.
Beau bon vin, oui.
Oui. Sauf que c'est bovin et bovin aussi. Hein.
Voilà.
On va voir ça.
On a les deux. Un vigneron persillé.
Voilà. Une très, très belle histoire. Et à l'arrivée dans nos verres, un vin qui mérite d'être bu et que Arnaud Daguin est déjà en train de siffler d'ailleurs. Préparez vos questions dans ce débat derrière votre poste de radio. Alors on a un mail pour réagir, on va déguster à radiofrance.com. Il y a également un petit tweet possible avec le mot-clé on va déguster. Sylvie Augereau ne se privera pas de répercuter vos réactions dans l'émission. Derrière la console, Michel Biou, Julien Dumont, Laure Grand Besançon, Nadia Chougui. Juste avant de trancher dans le vif, mon adresse de la semaine.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
On commence par une petite énigme de cuisine carnivore, même s'il n'est pas question de bœuf, mais d'un autre animal. Attention, connaissez-vous le Bouta Kakuni? Bouta, plus loin Kakuni. Au moins, avez-vous une idée du pays d'origine de cette spécialité? Bouta Kakuni.
Aucune idée.
Bouta veut dire cochon en japonais. Kakuni veut dire quelque chose comme braisé pendant de longues heures, mijoté. Le Bouta Kakuni est une spécialité de la ville de Nagasaki, préparée à partir de poitrine de porc. J'ai eu la chance d'en déguster une version exceptionnel dans une adresse nippone totalement confidentielle. Ça se passe dans le quartier Oberkampf à Paris. Et je remercie d'ailleurs mon amie, la journaliste gastronomique Valentine Houdard, de m'avoir glissé ce bon plan à l'oreille. Vous filez rue Ternaux, Paris 11e, juste à côté de la rue Oberkampf. Au numéro 3, vous tombez sur une devanture bleue avec un nom, tout simplement le comptoir japonais. Quand vous entrez, il y a effectivement un comptoir tenu par des Japonais, mais c'est beaucoup plus que ça, cette adresse.
C'est Kanban.
Passer ce petit... Non, c'est pas Kanban. C'est pas Kanban, mais par contre, niveau mijotage, on n'est pas très loin. Passer ce petit comptoir, vous entrez dans un salon avec une cheminée, un petit patio avec de la végétation. Hiroko, la cuisinière japonaise, et sa fille vous reçoivent tout simplement au déjeuner, chez elle, dans leur appartement, en rez-de-chaussée. Alors vous vous installez soit sur le canapé un peu défoncé, le fauteuil club qu'a vécu, ou une chaise pliante, pas franchement confortable, mais c'est pas très grave. Avec un peu de chance, vous tomberez sur ce Buta Kakuni. Hiroko met quand même 3 jours à préparer cette recette. Alors elle utilise de la poitrine de porc fermier, français. Elle pare cette poitrine de porc, elle la taille en gros cubes, elle fait blanchir ces gros cubes plusieurs fois pour enlever l'excès de gras, et ensuite elle fait confire quand même ces morceaux de poitrine de porc 8 heures dans un bouillon d'hachis, hein, bonite séchée, algues kombu, beaucoup de sapidité, le fameux goût umami des Japonais, une pointe de sauce soja, un peu de sucre complet, et à l'arrivée, posé sur un riz blanc, des morceaux de viande, mais d'un moelleux, j'ai rarement vécu ça, un moelleux absolument incomparable, presque évanouissant, naissant, fuyant en bouche, comme si on se vautrait comme ça dans des polochons très, très, très enveloppants, avec une sauce extrêmement dense et légèrement suave. Et c'est dans un menu du jour. Ce plat était, figurez-vous, précédé de 3 petites entrées légumières, avec des légumes bio de Paolo Oyama, qui est un maraîcher brésilien d'origine française installé à Mille et à Forêt. Vous le connaissez ou pas, Arnaud Daguin?
J'en ai entendu parler, oui, récemment.
Paolo Oyama, il faut aller le visiter, celui-là, je peux vous dire. Il est en biodynamie, il est à Mille et à Forêt dans l'Essonne. Combien pour ce Buta Kakuni et ces 3 entrées légumières juste avant dans une formule au déjeuner? Allez, un prix.
Bah, 13,50.
Ah, et ben on est encore moins que 13,50, figurez-vous. Et on est à Paris, en plein cœur de Paris. Ouais. 12,50 euros la formule déjeuner.
Mais c'est le mobilier qui est pas cher.
Oui, c'est ça, le mobilier n'est pas cher. On peut même avoir un peu mal au dos en sortant. Mais et si vous ajoutez un petit dessert japonais, 14 euros. 1,50 de plus pour le dessert.
Allez, on prend le dessert.
12,50 pour cette formule, cette super formule déjeuner d'Hiroko au comptoir japonais. C'est ouvert du lundi au vendredi, alors qu'au déjeuner. Hein. On y va en passant, comme ça, c'est pas ouvert le week-end non plus. C'est 3 rue Ternaux, Paris 11e. La réservation est impérative, évidemment, puisqu'Hiroko cuisine chaque jour en fonction du nombre de convives. Toutes les infos sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous leur faites évidemment un petit coucou de la part d'On va déguster.
Speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it.
Liar, liar, pants on fire. Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out.
They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You fiending more, but when they peep, you peep and you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it off. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me. Tricksters out there. We just wanna chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free. You know what I mean? We just gonna fade out.
Justice pour les animaux!
On n'a pas le droit aujourd'hui, en 2017, d'assassiner des animaux dans une souffrance qui est intolérable. La viande, c'est pas un bon goût dans son burger, quoi. C'est vraiment une chaîne qui est de la naissance jusqu'à la mort de l'animal, une torture extrême.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster et on va débattre.
À moins de revenir d'un congé sabbatique sur la planète Mars, personne n'a échappé aux images glaçantes tournées dans certains abattoirs de France. On vient d'entendre un extrait d'un reportage de France Inter dans une manifestation anti-viande devant l'abattoir de Houdan, à la suite d'images révélées récemment par l'association de protection animale L214. Une question simple pour lancer ce débat. L'élevage moderne maltraite-t-il les animaux? Franck Ribière.
Oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, quelque chose qui a complètement été oublié, c'est une forme de logique qui, nous, omnivores, nous permettent de choisir ce qu'on mange et donc d'avoir dans ce choix des responsabilités. Et ces responsabilités, on les a oubliées vis-à-vis de l'animal. Et aujourd'hui, à vouloir trop en manger, on a développé un système qui aujourd'hui fait que 95% des animaux qui sont abattus en France, quels qu'ils soient, bœuf, volaille, etc., ne le sont pas correctement et n'ont pas été élevés correctement. Par contre, ça ne veut pas dire que tout est mauvais et qu'il faut tout jeter, évidemment. Et ça a changé déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai pour la viande, comme ça a été vrai pour les légumes, pour le vin, pour tout ça. Aujourd'hui, le cas de la viande, révélé par ces lanceurs d'alerte, qui jouent un rôle important dans la modification de notre comportement vis-à-vis de la viande, fait qu'aujourd'hui, la question, est-ce qu'on doit manger de la viande? On peut répondre non. Est-ce qu'on peut en manger? On peut répondre oui, à condition de faire un effort. Un effort sur soi-même et un effort envers les autres.
Alors on va justement voir que vous-même, à titre personnel, vous développez une expérience passionnante concernant l'abattage des animaux. Le steak vit aussi sa révolution en France et il est temps de le faire savoir. C'est un peu une des phrases moteurs de votre livre, qui est un passionnant reportage dans les terroirs de France, à la recherche d'expériences d'exception, tournées vers l'excellence, à la fois du côté des éleveurs, du côté des bouchers, du côté des restaurateurs. Steak in France, aux éditions de La Martinière, coécrit avec votre compagne, hein.
Oui.
Vérane Frediani. Pascal Grosdois, je vous pose la même question. Vous, qui êtes forcément intéressé par la question, puisqu'on va voir que vous avez fédéré 150 éleveurs en Normandie, à travers une filière, là aussi, tournée vers la qualité, le bien-être animal vous préoccupe. Pour ce qui est de l'abattage.
Alors, je suis globalement d'accord avec vous. Maintenant, historiquement, les éleveurs ont toujours eu une certaine distance par rapport à cette séquence qu'il y a à l'abattoir et à l'abattage. Mais comme vous l'avez aussi précisé à la fin du point précédent, on se rend compte aussi qu'il y a eu un virage qui s'est pris et qui va continuer de se prendre sur ces thématiques-là. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, mais quand même, les directeurs de sites d'abattage aujourd'hui se posent de grandes questions. Elles ne se posent pas depuis qu'hier, hein, ça fait un moment déjà. Il en est de même, me semble-t-il, pour également les services vétérinaires. Aujourd'hui, la question, effectivement, de voir de quelle manière on peut éviter ces dérives, quand elles existent, est vraiment à l'ordre du jour et c'est une priorité.
On a presque l'impression, pardon, que des conditions un peu déplorables d'abattage sapent tout le travail en amont sur l'élevage. Vous chérissez à travers vos 150 éleveurs, vos bêtes, dont on peut dire raisonnablement qu'elles elles ressentent un certain bien-être dans leur pâturage, puisque vous vous imposez des conditions très strictes, du temps passé dans les pâtures, l'alimentation évidemment, etc. Et ça se finit mal, mais ça pourrait se finir de façon moins pire, j'aurais envie de dire.
Oui, ça se finit mal, il faut aussi relativiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gros flashs qui sont sortis depuis quelques mois et qui ont certainement existé auparavant, naturellement. Mais aujourd'hui, on a aussi des visites d'abattoirs et de séquences d'abattage qui sont tout à fait conformes et où l'animal descend du camion, si vous voulez, a été transporté sur un minimum de temps, arrive à l'abattoir, je dirais, à 10h du matin et à 10h10, a été abattu. En quelque sorte, je caricature un peu, mais où ça se passe très très bien, et je dirais même que la viande, vous en parlez tout à l'heure, la viande, du coup, l'animal n'a pas vu, entre guillemets, et on retrouve un produit après fini qui est dans des très très belles conformations. Enfin,
d'accord.
Voilà, il ne faut pas non plus prendre, je dirais, les images pour de l'argent comptant. Hein.
Expérience édifiante de Franck Ribière dans votre livre. Alors j'avoue que j'ai lu ce chapitre avec beaucoup beaucoup d'intérêt. C'est dans le chapitre que vous consacrez à Émilie, éleveuse de Charolaises en Bourgogne. Alors autant dire que son élevage est revendiqué comme éthique, naturel, élevage nourriture au foin, etc. Et vous avez voulu percer la question de la fin de l'animal. C'est vrai que c'est une question assez taboue. Moi-même, en tant que journaliste, je suis jamais entré dans un abattoir. J'ai jamais vécu les derniers instants à la fois de l'animal, mais également la réaction de l'éleveur qui a une position inconfortable et ambiguë par rapport à ses bêtes.
Oui, parce que dire que tous les éleveurs voudraient participer... Je dirais être présent à ce moment-là. Non, c'est faux. Tout le monde ne le veut pas. Ce qui était étonnant dans ma démarche, c'était de voir que elle, par contre, Émilie, ne pouvait pas y assister. C'est-à-dire qu'il y avait un délai entre le moment où elle se levait à 4h du matin, mettait la bête dans le camion, une seule animal parce que son camion est trop petit, elle arrive là-bas, il faut qu'elle attende un peu, le bouvier
arrive.
Vous
l'avez accompagné, hein. Oui, vous étiez à ses côtés dans le camion.
Oui, tu sais, le bouvier arrive, le bouvier est jeune, il n'a pas forcément le même niveau d'expérience que d'anciens bouviers. Celui qui parle à l'oreille
le bouvier,
celui qui est censé parler à l'oreille de l'animal et le calmer. Et finalement, les 10 dernières minutes, elle est absente. L'éleveur est absent de la mort. Et ça, j'avais trouvé ça étonnant. Elle, parce que effectivement, elle est triste. Elle était triste. Et l'animal, parce qu'à ce moment-là, on sentait une forme de il était perdu. Il est perdu. Et le fait de pas être...
Et ça veut dire qu'il est stressé?
Il stresse. Et à partir de ce moment-là, le processus d'abattage change. Et là, on rentre dans quelque chose de très industriel, de plutôt bien étudié, d'une certaine façon, où on limite son stress au maximum. Mais il n'y a pas photo. Vous le regardez, vous voyez qu'il stresse. Et ça, une heure de camion, 20 minutes de camion, 10 minutes de camion, n'y feront rien. Il stresse parce qu'il n'est pas dans son environnement. Et ça change tout.
Et vous tirez cette conclusion à la fin de ce chapitre. Il faut arrêter le transport des animaux vers les abattoirs et permettre aux éleveurs de faire mourir leurs animaux dans la ferme où ils sont nés.
Comme ça se faisait avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, ce n'est pas une révolution. C'est exactement le bon sens paysan qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'avant, le boucher se déplaçait, venait dans la ferme, choisissait avec l'éleveur la bête qui lui paraissait la plus conformée, la plus apte à partir à la mort. Et à ce moment-là, le processus de mort était contrôlé par l'éleveur, avec le boucher, et cela se faisait relativement bien. Et après, les autres process qui ont été oubliés, qui permettaient d'améliorer la qualité de la viande, comme pendre la carcasse, attendre que la carcasse arrive tranquillement chez le boucher, qu'elle soit pendue, qu'elle puisse maturer, etc., ce ne se font plus aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il faut revenir.
De là, vous avez tout simplement...
Oui, de là l'idée de ce camion d'abattage qui existait en Suède et avec lequel on est allé voir.
Hein.
Oui, qu'on est allé voir. On a vu un peu la grande différence qui était quand même la porte ouverte, le piège du camion ouverte vers le champ. Donc l'animal se dirige vers le champ. Il a absolument aucune idée de là où il va. Il est avec ses autres congénères, il est avec son éleveur et la mort se passe en 10 secondes. Je dirais, on a calculé...
Qu'est-ce que ça change en fait? Il ne voit pas, l'animal ne voit pas la mort venir.
Il ne voit pas la mort. Il ne voit pas la mort, c'est-à-dire qu'il ne voit pas ce dernier moment où effectivement il va sentir que quelque chose se referme sur lui ou quelque chose est fini pour lui.
Et pardon, mais sans rentrer dans les détails techniques, comment s'opère cette mise à mort?
Eh ben, c'est par quelle technique? Comme elle doit se faire, c'est-à-dire que c'est un étourdissement dans un premier temps,
oui.
Qui permet à l'animal de ne plus avoir aucune réaction.
Uh-huh.
Et à ce moment-là, la mort se fait par éviscération et surtout par égorgement, puisque c'est par là que effectivement on coupe en même temps le sang, l'arrivée du sang et l'arrivée du système nerveux.
Enfin, et ça se fait dans un champ.
Ça se fait en bas du camion, l'animal montant dans le camion mort.
D'accord.
Ah oui.
Ça, c'est l'expérience de Britt Marie Steggs en Suède.
Oui.
Vous êtes allé visiter son camion de pointe, d'ailleurs,
oui.
Technologiquement, c'est très,
très
pointu.
Très propre,
et vous avez décidé d'appliquer cette...
Oui, on s'est associé avec des amis, et donc Émilie,
oui.
et Louis-François Hichter aussi. On s'est décidé de s'associer, de trouver des fonds et de lever du financement pour créer ce camion qui va commencer à abattre au mois de septembre et qui va commercialiser une viande... qu'on aura choisi et sélectionné chez des éleveurs qui auront répondu à une charte qu'on aura définie avec eux qui permet de la naissance à la mort de garantir la vie la plus, je dirais, idéale pour ces animaux, pour effectivement des raisons morales pour des raisons gustatives, parce que bien évidemment derrière tout ça il y a quelque chose quand même,
c'est
le plaisir de la viande, parce que s'il n'y a pas de plaisir, ce n'est pas la peine d'en manger.
Est-ce que légalement on peut organiser des abattoirs itinérants mobiles, c'est autorisé par la loi?
Alors à partir du moment où vous répondez aux obligations de l'abattoir fixe, qu'il soit mobile ou qu'il soit en l'air, qu'il soit sur satellite, c'est possible. Voilà. Mais attention, en France, les conditions d'abattage sont très strictes. Là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, et effectivement, ça existe, hein, les maltraitances sur les animaux en abattoir, c'est minimal par rapport au nombre d'animaux tués. Je dirais qu'on poserait des caméras sur les autoroutes au mois de juillet, on aurait de très belles images du comportement humain vis-à-vis des animaux.
Mmh. Pascal Grosdoy, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience?
Écoutez, moi, je pense que nous, on a interrogé des éleveurs sur le sujet l'année dernière. Et en fait, beaucoup, vous savez, sont un peu dans l'indécision. C'est-à-dire que abattre un animal juste à proximité de là où il a été élevé, si vous voulez, il y a quasiment un cas de conscience. C'est en tout cas ce que j'en ai ressenti. Maintenant, l'idée peut faire son chemin. Il est vrai que la notion de trajet, hein, même si on va sur des temps d'horaires relativement courts, de plus en plus, amène l'animal dans un environnement totalement différent. Il a 3 ou 4 séquences différentes avant d'arriver à l'abattage, naturellement.
Mmh.
Bon, pourquoi pas, dès lors que l'ensemble des risques et l'ensemble des règles sanitaires soient vraiment bien appliquées, le traitement des MRS, le traitement des carcasses, enfin vraiment que l'ensemble de la ventilation,
l'hygiène
soit assez, qui est relativement appuyée, soit strictement réalisée, hein, qu'on retombe pas non plus dans des mauvais travers qui quand même nous ont un peu fait chuter depuis quasiment 15 ou 20 ans.
Hein. Mais ça fait partie des questions dont vous débattez avec différents acteurs de la filière.
Absolument, les questions se posent.
Puisque vous avez monté une filière qui est assez atypique dans notre paysage, Normandie Viande Héritage. Vous travaillez pour la restauration collective publique, les restaurateurs locaux et parisiens, souvent de qualité, puisque la qualité est un peu votre mot d'ordre. Vous livrez régulièrement d'ailleurs l'Assemblée Nationale, l'UNESCO, France Télévisions, et cette qualité de viande passe par des circuits courts, par la revalorisation du revenu des producteurs, par le bien-être animal. Expliquez-nous en un mot votre démarche, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le déclic qui vous a fait vous lancer dans cette aventure.
Eh bien, le déclic, il y en a eu plusieurs. Hein. Le premier déclic, c'était dans les années 96-97, je crois, quand il y a eu les premiers rappels de marchandises d'Union européenne pour des crises ESB. Et si vous voulez, sur une de vos radios concurrentes, j'entendais un lot qui était rappelé. Et voilà que je rentre dans l'entreprise. À l'époque, on faisait assez peu de volume, mais j'avais ce lot-là dans mon stock.
Vous étiez carrément... ouais.
Pris en flagrant délit, et si vous voulez, de ce jour-là, en gros, on s'est dit, c'est pas possible, on doit savoir absolument ce qu'on commercialise, ce qui était une évidence, mais si vous voulez, il faut mettre dans le contexte, c'était il y a 15-20 ans, on avait des numéros de lot, on avait déjà des choses comme ça, mais finalement, on bougeait des palettes, quoi, en quelque sorte. Et puis, on s'est dit aussi qu'il fallait absolument qu'on identifie le produit à sa source. Le second point qui était un point essentiel, il y en a trois, en fait. Le second point, c'est quand les appels d'offres européens pour les collectivités activités sont passées en appel d'offres. Et où, à un moment donné, de mon point de vue, et naturellement ça n'engage que moi, où la notion de consultation européenne a pris, je dirais, la tonalité du moins 10 ans. Et du moins cher. Et là, on est rentré dans un système complètement, de mon point de vue, toujours aberrant, qui est aujourd'hui en train de se nuancer largement, et tant mieux. Et puis, le troisième déclic, c'est la rencontre. On a rencontré des personnes, et je pense à tout particulièrement à un éleveur, Daniel Ballon, dans la région d'Argentan, et où on a affaire vraiment à des purs, vous voyez, à des puristes, à des terriens, et qui m'a dit, écoute, tu devrais changer un peu ton fusil d'épaule et voir ton activité un peu autrement. Voilà. Du coup, pour faire simple aussi, on s'est donc associé aujourd'hui dans l'approvisionnement aux fédérations d'éleveurs, notamment les éleveurs de race normande de Normandie.
Voilà, la race normande est au cœur de votre dispositif.
Il fallait qu'on aille effectivement sur là où tu es situé, hein, la connaissance, la technique et l'approvisionnement. Et aujourd'hui, on est en capacité de proposer des projets aux collectivités, mais pas que, qui soient effectivement ficelés autour de la race normande avec des thématiques comme celles que vous avez évoquées.
Vous êtes tous mis autour de la table et vous avez bâti littéralement un cahier des charges, une filière.
Voilà, alors c'est ça. Alors, c'est qu'au début aussi, quand on a voulu aborder le sujet en 2000, toujours, hein, encore une fois, 15 ans en arrière, on s'est tourné sur le marché pour voir ce qui existait. Et je dois avouer que la notion de filière où, en fait, autour d'une table, les différentes tables maintenant existent, n'était pas là.
Tout le monde fait son métier séparément, les abatteurs, les éleveurs, voilà, les producteurs de céréales.
Ça ne se parle pas. Et ça se parle plus aujourd'hui, mais ça se parlait pas trop.
Oui, ça veut cacher aussi le fait que 80% de ce qu'on mange, c'est de la vache de réforme. Hein. C'est-à-dire, parce que là, on parle de vache, mais clairement, on mange aussi beaucoup des vaches qui produisent le lait. Je parle pas de la normande, qui est une vache
de réforme. La vache de réforme, c'est la vache à la retraite qui est tarie.
On veut parler de la viande, mais on veut pas parler du lait. Donc, si on boit du lait, on a des vaches, qu'est-ce qu'on en fait? On les tue.
Voilà. Le problème de la vache de réforme, c'est qu'elle a pas de retraite.
Oui, voilà. Elle en a une petite. Mais avec vous quand même.
Je vous rappelle que les humains n'ont pas tellement. Hein. Oui. Le nombre d'humains qui meurent juste après avoir pris leur retraite est assez important.
Mais toute
aussi.
La démarche de Pascal Grosdoy, c'est précisément d'offrir une retraite à la vache de réforme, c'est-à-dire la vache normande, en l'occurrence, qu'on connaît beaucoup pour le lait, la production du camembert.
On en a parlé ensemble il y a 2 ans, Arnaud. Oui. En fait, on n'a pas un système qui est vraiment qui est plus orienté que les autres. Simplement, on fait vraiment beaucoup d'attention à donner du temps à nos éleveurs pour pouvoir effectivement se repositionner. Hein. Le calendrier de l'élevage n'est pas le calendrier des médias, ni de celui de l'actualité. Et du coup, il y a du temps qu'il faut donner à toutes ces fermes.
En un mot, quelques points sur lesquels vous insistez, de la production de nourriture locale. Vous avez proscrit par exemple le soja qui vient de l'autre bout du monde.
Alors on essaye, voilà, d'amener effectivement des thématiques où, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, ça serait d'amener effectivement nos éleveurs à aller sur des schémas alimentaires un peu d'autoproduction ou d'autosuffisance.
Minimum passé dans les pâturages.
Voilà, par exemple, une conformation musculaire qui soit acceptable pour pouvoir avoir un produit qui soit à la fois destiné aux collectivités, mais aussi à la restauration commerciale, gastronomique ou non gastronomique. Et puis aussi, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est de quelle manière rémunérons-nous nos éleveurs. Hein, il y a un cours, nos marchés publics sont annexés sur un cours de Paris, de Rungis par exemple, et en fait ça n'a plus rien à voir avec le besoin qu'ils ont de produire tous les matins un beau produit, un bel animal. Donc voilà, donc ce sont ces chantiers qu'on ouvre, et ça prend... Le temps que ça prend, mais ça y va. Ça
expérience
y va.
Tout à fait passionnante. On va évidemment continuer le débat, mais il est temps de donner la parole à notre sanguinaire Arnaud Daguin.
Le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
Cuisinière, cuisinier, chasseur, cueilleuse, pêcheur, pêcheresse, j'ai tout le monde. Au lendemain du 1er avril et de ces farces poissonnières, me vient une envie de harangue en fait. Je vais de ce pas vous servir un filet de harangue, gracieusement nommé harangue de Rahan. Pardon, oula. Rahan, fils de Krao, homme des âges farouches, harangue donc son petit-petit-petit-petit-petit-petit-fils, Aimeric, fils de Caron, homme des âges effarouché. Cher petit, 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 petit-fils, j'apprends que tu as décidé de te passer des animaux dans ton assiette et dans ta penderie. Tu es devenu antispéciste. Moi, il y a 100 000 ans, vêtu de peau de bête, la cuisse à l'air, le coutelas dressé avec mes potes homo sapiens, François, homo sapiens. Avec mes potes bipèdes, donc, nous courions parfois même sans pagne pour tout le monde, au cul du mammouth avec des arrière-pensées de barbuck. Enfin, la moitié du temps, l'autre étant consacré à sauver notre couane en détalant dardard devant des tigres à dents de sabre. Bon, ok, c'était un peu sportif, on vivait pas vieux, mais on était en super forme. Ou alors on était bouffé tout cru. Pas le choix, donc pas d'état d'âme. Les bestioles, que ce soit nos proies ou nos prédateurs, c'était des gens comme nous. On se respectait pareil, on était antispéciste, quoi. On vivait des rentes de la nature et on lui payait aussi son tribut comme les autres bêtes. On était en équilibre, on aurait pu vivre plus d'un million d'années. Mais ça n'a pas duré. Tu vois, Aymeric, notre problème à nous les sapiens, c'est qu'on est trop malin, ou alors pas assez. Trop malin pour rester confiné dans notre niche écologique, et pas assez pour prendre conscience de nos actes. Nous sommes la seule espèce animale qui ne voit pas les limites de ses ressources. On est devenus si nombreux qu'il nous a fallu produire au lieu de prélever. Pas le choix. La culture a pris le pas sur la nature, le début des emmerdements. Ben oui, c'est pas parce qu'on produit du vivant que le vivant est un produit. Et toi, Aymeric, tu ne les supportes plus, ces souffrances et ces holocaustes permanents. Ça te révolte que les humains se placent au-dessus des bêtes, alors qu'ils sont à peine un poil plus futés. Alors tu veux sortir de là, tu ne veux plus que les bêtes te nourrissent ou t'habillent. Et si rarement te harangue, Aymeric, comme rarement on te haranguera, excusez-moi, c'est pour te dire que ce n'est pas en boudant le beefsteak et le vison qu'on va régler le problème. La vraie question, ce n'est pas de savoir si une bête, humaine ou pas, a le droit d'en bouffer une autre. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir combien et comment produire et se reproduire. Produire moins de bêtes, humaines ou pas, moins bêtement. Car si vous voulez durer sur cette planète, mes petits, 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 petits enfants, il vous faut créer un nouvel équilibre du vivant. Vivre à nouveau des rentes et arrêter de taper dans le capital. Peut-être qu'en faisant moins de petits et en poussant moins le caddie chez Mammouth, vous y arriverez. Je sais, François-Régis, Mammouth a disparu, et d'ailleurs moi aussi, et vous aussi bientôt.
Bon, Raon, vous n'êtes pas marrant alors, vous allez allumer le feu ou pas?
Allez, j'y vais, au fond de la caverne. Aujourd'hui, les sapiens, ragoût de bêtes en deux cuissons. D'abord, je capture deux belles bêtes bien dodues. Inutile de les saigner, là je parle des légumes.
Ouais, les bêtes ou blettes?
Avec mon coutelas d'ivoire, je sépare les feuilles des côtes, je détaille les côtes en gros sifflets et hache les feuilles grossièrement. Je fais rissoler les sifflets à la poêle dans un peu d'huile de noisette, et quand ils sont colorés mais encore croquants, je déglace d'un filet de vinaigre de cidre que je laisse réduire à sec en remuant sur feu doux. En même temps, je mets les feuilles hachées dans une casserole sur de l'huile de noisette et à feu moyen. Et dès qu'elles sont tombées, je mouille avec le lait de noisette et donne une ébullition. Et puis je mixe lisse. Je sers en écuelle un îlot de sauté de côte entouré d'une mare de velouté de feuilles, fleurs de sel, un tour de moulin à poivre, une pluie de noisettes concassées et torréfiées. Et je m'envoie le tout en travers de la glotte. Te lasco.
Bon, okay,
je sors. Oui, allez, haranguez-vous les uns les autres et éclatez-vous comme des bêtes.
Bravo, Mister Daguin. Bravo. Excellent. J'aime beaucoup cette recette de ragoût de bête ou de blette.
C'est bien, hein?
Oui. Mmh. C'est végétarien en plus.
En plus.
Oui.
J'ai fait ça à des gamins de maternelle, ouais, à Mendion, à côté de là où j'habitais au Pays Basque, et ils se sont régalés.
Et ça va plaire d'ailleurs à nos nombreux auditeurs qui nous attaquent un petit peu, ça on s'y attendait, hein, sur notre mail et sur Twitter. Quelques exemples de réactions.
Gentiment. On a Gilles Barnave, alors oui, on ne sait pas où il habite, et qui nous dit « Je vais chercher les carcasses pour mon fils boucher toutes les semaines à l'abattoir. Il ne travaille qu'avec des éleveurs locaux et n'achète que des bêtes entières dont il sait qu'elles ont été élevées localement. »
D'accord.
Et il ne faut pas se bercer d'illusions, à côté de la travée réservée aux bouchers locaux, on trouve pendues des carcasses abattues par une grande enseigne. Mm-hmm. Le volume est 100 fois plus important. Je crois que la très grande majorité des consommateurs ne pensent pas comme nous et recherchent un produit pas cher.
D'accord.
Voilà. Peu importe l'origine, ils devraient se poser deux questions. Qu'a mangé cette bête pour que l'on puisse vendre sa viande à ce prix? Et qu'a gagné ce paysan producteur?
C'est vrai que le prix de la viande, c'est aussi une question quand même.
C'est le nerf.
Une viande de qualité souvent a un coût, ce coût se répercute sur l'étiquette. Est-ce que la bonne viande n'est pas une affaire pas une affaire d'élite en fait?
Oui, il y a quand même une bonne nouvelle, hein, c'est que je rappelle parce que on l'a un peu oublié.
Franck Ribière.
Les vaches sont des ruminants, elles mangent de l'herbe.
Oui.
Et uniquement de l'herbe.
Mm-hmm.
Donc en théorie. Donc, on parle de Normande, par exemple. La Normandie, 300 jours de pluie, plus l'une des plus belles prairies de France, forcément, c'est un territoire de vaches.
Absolument.
À manger. Mmh. Mais ça, on l'a un peu trop oublié. Et ça aussi, ça joue sur le prix. Parce qu'aujourd'hui, dans le calcul du prix, vous avez le prix des céréales et vous avez aussi le prix des vétérinaires parce qu'on a fait des bêtes qui, aujourd'hui, ne peuvent plus veiller toutes seules. Et ça, ça fait beaucoup sur le prix. Donc, il y a aussi cette donnée-là qu'il faut changer.
Débat riche, passionnant, saignant. On le continue dans un instant.
Ne me change pas, ne me change pas. Laisse-moi chanter, laisse-moi chanter. On ne transforme pas, on ne transforme pas. L'acier en est un, l'acier en est un. J'en ai poursuivi des chimères, courbé plus de 100 fois les chines, bâti dans un bois qui ne plie.
Ne change pas de Mesparo, la viande au menu dont on va déguster. Comment se tourner vers des élevages plus responsables? Eh bien justement, on va le voir à travers l'exemple précis d'un éleveur modèle.
Moi, je suis en autonomie complète. C'est-à-dire que je produis toute l'alimentation de mon bétail. Le foin, céréales, le peu de céréales, j'ai pas besoin de beaucoup. Hein. Les veaux, je vends mâles, femelles, j'ai pas de souci de commercialisation parce que les gens connaissent mon produit et je le vends en direct à des restaurants...
Côte de veau de chez Monsieur Jacques Abatouch, donc avec son jus à la boulagne et flambé au romarin.
Après, il y a une saisonnalité du goût. Je ne dis pas à mes clients, ben écoutez, vous avez un standard. C'est pas vrai parce que l'alimentation change tout au long de l'année, les essences changent et donc automatiquement, ben le goût de la viande change. Par exemple, le veau de la Noël, ils ont mangé des glands, donc il a un goût de noisette un peu. Le veau d'hiver, ils ont mangé beaucoup de feuillage, beaucoup de foin, et bien la viande, elle sent un peu le pain d'épices. Et tout est comme ça. Donc après, on peut apprécier plus ou moins les qualités de viande, mais surtout, je fais en fonction de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut appeler le vrai bon sens paysan. Aujourd'hui, le bon sens paysan, c'est de faire ce qu'on peut sur les terrains qu'on a. Parce qu'après, à ce moment-là, on est dépendant des uns et des autres, des fluctuations mondiales, des cours. Si on crée une économie rurale qui tient la route, on peut réussir à préserver notre environnement.
C'est un extrait d'un documentaire que vous connaissez bien, Franck
Hubert.
Oui,
je me souviens bien de ce
puisque vous l'avez réalisé. Petit mot de Jacques Abatucci.
Ah, c'est le vrai paysan au sens noble du terme. Ouais. Il a tout compris.
Paysan, gentleman farmer.
Oui, parce que s'il pousse ces 300 hectares de bord de mer en Corse, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient lui acheter.
Mais alors, est-ce que le bon sens paysan, c'est l'avenir? Il y a un risque à dire ça. On va encore être traité de passéiste.
Non, c'est l'avenir. C'est l'avenir. De revenir à quelque chose qui a du sens. Du sens pour continuer à pouvoir en manger de la viande comme d'autres choses, dans des quantités qui nous semblent aussi qui doivent être cohérentes.
Voilà. Absolument.
C'est fini.
Il dit très bien,
Arnaud Daguin.
Il dit je fais ce que je peux avec la terre que j'ai. Voilà.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais la viande doit nourrir tout le monde?
Non, c'est pas la viande qui doit nourrir tout le monde. C'est vrai,
on est d'accord. Oui. Mais le revers de la médaille, c'est que le veau tigré de Jacques Abatucci, que moi j'ai eu la chance de goûter il y a même fort longtemps, je peux le dire, je l'ai rencontré il y a plus d'une dizaine d'années, il est exceptionnel, mais il est confidentiel.
Il est réservé à des gens qui sont de proximité à son élevage, qui peuvent effectivement s'en procurer, ce qui est assez logique.
S'il y avait 5352 Jacques Abatucci en France, ça serait moins confidentiel. Voilà.
On est bien d'accord.
Mais il y en a de plus en plus.
Mais vous savez, quand il y a plus de bouches à nourrir que d'emplois disponibles, il faut aussi se poser des questions. Pour revenir sur la question du prix quand même, parce que c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, c'est qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il ne s'agit pas de dire il y a des produits pour des élites et des produits pour des non-élites. J'aime pas trop ce point de vue-là. De même, je recalibre la phrase qui consiste à dire on va manger beaucoup moins et mais mieux. Celui qui n'a pas d'argent pour acheter 40 grammes de jambon, si vous le faites une tranche bien protéinée d'un jambon label rouge, c'est insuffisant pour manger. C'est une caricature, j'en suis d'accord, mais quand même. Il y a un point aujourd'hui, c'est qu'on doit accompagner le mouvement. Notre job, c'est pas uniquement de vendre, etc., de faire rencontrer des gens, c'est aussi à un moment donné de trouver des solutions. Nous sommes sur une piste qui n'a rien révolutionné, mais quand même qui a du sens aujourd'hui, notamment pour les marchés collectifs, mais où la restauration a tout son intérêt également à regarder, c'est la liaison, enfin le lien avec l'équilibre matière.
Alors l'équilibre matière, c'est vrai que c'est une question un peu technique, mais très importante.
Oui, on va
faire
simple.
On a souvent tendance à préférer des morceaux nobles dans la carcasse bovine,
voilà.
Entrecôte, voilà. Côte de bœuf.
En général, parce qu'on a désappris à se servir du reste.
On est d'accord.
C'est ça. Et d'ailleurs, l'éducation rentre et la formation de nos chefs rentre en ligne de compte. Aujourd'hui, vous l'avez mis dans votre bouquin, il y a trois grandes parties. Hein. La partie avant, qui est en cuisson lente, qui est assez économique. La partie intermédiaire, notamment du bas de la poitrine, qui finit aujourd'hui en steak haché. Et on pourra en parler parce que j'ai amené un produit justement pour donner le ton sur le haché. Et puis, la troisième partie que tout le monde apprécie, les côtes de bœuf et carré, etc. Bon. Tout doit être bon, tout est bon dans le bœuf. Après, il suffit de former les gens aussi à utiliser, en fonction des saisons, en fonction des exigences de la production aussi, à écouler les produits. L'idée quand même de fond, c'est de pouvoir monter en gamme la notion d'élevage. On parle de bien-être, on parle d'alimentation, donc de monter effectivement les curseurs pour que le produit, quand même, deviennent accessibles, j'ai envie de dire, à tout le monde, vous voyez ? On peut parler de Jacques Abatucci qui a un produit exceptionnel, on peut parler du bœuf cidré de Monsieur Craquelin qui est un produit hors norme, mais on est quand même sur des petites séries et en aucun cas on est dans une démarche
juste pour la poésie de l'exemple. Pardon. Parlons quand même de ce bœuf cidré.
Oui.
Cidré, j'entends cidre, on n'est pas très loin de la Normandie, ça on le sait. C'est la finition d'une vache normande par un éleveur en particulier, mais ça correspond à une tradition Normandie.
C'est pas une tradition, c'est qu'habituellement quand les gars faisaient leur cidre, les animaux mangeaient les pommes qui tombaient ou bien ils mangeaient le mou de cidre. En gros, c'était ça c'est vieux hein comme des
marques. Et ils étaient un peu pompettes, non?
Il y a eu des exemples, moi je les ai jamais vus encore, mais il y a eu des animaux ou des bêtes saoules, voilà. L'idée de monsieur Craquelin est particulière. Il y a 4 ans, il vient nous voir, il dit voilà, je suis producteur de cidre, j'élève des bœufs.
Il est où ?
Il est à Villequier, dans un joli village dans la vallée de Seine, avec des prairies d'ailleurs extrêmement riches en protéines et puis bercées par le sel remontant de la mer. Et donc on dit ok, on essaye ensemble. Donc ça fait 4 ans maintenant qu'on a sorti ce millésime, parce que du coup là on est en millésime 2017. On est sur des bœufs élevés, j'ai envie de dire bien élevés et proprement.
D'accord.
Hein, où là effectivement le produit est un produit précieux. mieux, comme beaucoup de notre éleveur. Et du coup, on a un produit un petit peu hors norme qui permet de tirer la Normandie, entre autres, vers le haut.
Moi, je trouve que la programmation musicale, il en met du classique.
Exact.
Moi, j'aime bien le classique.
Ah, il aussi la musique. Il fait comme
ça. Il pourrait leur mettre Vitalik un peu, quand même.
Est-ce que Franck Ribière a déjà goûté le bœuf cidré?
Oui, j'ai goûté.
Alors,
oui, c'est intéressant, mais je préfère le bœuf avec du cidre. C'est-à-dire le boire avec du cidre.
Absolument.
Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord.
Vous aimez même, je crois savoir, la vache normande cuite dans le beurre de Normandie.
Ah,
là,
ça,
il y a quelque chose d'intéressant.
Concept, oui, c'est cuire sa viande dans le beurre qui vient de la
ça,
même
appellation.
Là,
on
commence à avoir des choses.
Tu racontes une expérience fumée
au
Franck
foin
Quinton.
C'est très, très bon.
C'est quelque chose de la cuisson du beurre, quand même.
Franck Quinton,
très bon.
Cuisinier, une étoile Michelin qu'on avait déjà reçu d'ailleurs pour une émission sur les champignons. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça?
Ah bah quand même.
Il était temps quand même de se poser la question, n'est-ce pas Sylvie Augereau?
Oui, je suis ravie.
Alors?
Eh bien moi je vais réconcilier tout le monde, voilà. Parce que je vous ai apporté un vigneron persillé.
Ah ouais,
et son vin
belle histoire.
C'est quelqu'un, Didier Barral, c'est quelqu'un de tout serein, avec juste un peu de gras bien diffusé. Il n'a pas de portable. Il va pas sur internet, comme il dit. J'y vais pas. Par contre, il a 70 vaches et 30 cochons qui pèsent gentiment sur ses 25 hectares de vignes. Quand
non.
Même. Et ouais.
Ah ouais. Ouais.
Les cochons et les vaches sur ses vignes.
Voilà.
Ouais.
Et il y a un lien. Je vais tous vous rattraper là. Je vais vous sécher. Voilà. On est dans le sud, en appellation Faugère.
Ah.
Voilà. Faugère, c'est un peu plus de 2000 hectares. Une demi-heure au nord de Béziers.
Mm-hmm.
Pas facile à dire. Dans le hameau de Lantéric, au pied d'une colline couverte de chênes verts. Et le spectacle des troupeaux de Didier Barral sur ses coteaux, c'est assez fascinant. Ils y sont entrés après les vendanges, forcément, sinon ils mangent le raisin.
Oui.
Et ils en sortiront seulement la semaine prochaine, justement. Il y a des salers, des jerseys, des aurochs, des tarotés, de la diversité pour pas stériliser. Et le hic, c'est que ces vaches, ils les aiment beaucoup, au point de les manger.
Ah, voilà. Ça se gâte.
Mais non. Mais ils mangent beaucoup de poissons aussi, il me dit. Et il en fait aussi des ceintures, des souliers, un peu trop durs au dire de sa femme Martine, mais très restants à la vigne.
Comme Jacques Apaducci d'ailleurs.
Il
utilise la carcasse jusqu'à utiliser la peau zébrée.
Aucune raison.
Et même, il fait même des tapis.
Absolument. La fameuse peau de vache.
Et tout ça, voilà. Et tout ça par respect, pour tout réincarner aussi, et pour remercier les vaches qui l'ont bien aidé. Voilà, mais du coup, ça fait beaucoup, 70 vaches pour une famille, et ils mangent beaucoup de poissons. Et donc, ils les vendent dans les bons restaurants. Donc, lundi matin.
Vous parlez des vaches ou du vin?
Les deux.
Ah, les bovins et les bovins.
L'un dans l'autre, ils s'en sortent.
Et donc, lundi, demain, à Paris, c'est Corne Cassée, c'était le nom de la vache qui s'est un peu débattue, qui arrivera sur la table d'Akram Benalal, qui est un peu. Le viandard parisien.
Ouais, avec l'atelier Vivanda, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, Franck Ribière.
Très, très bon.
Et donc, il engloutit une vache des Barral par trimestre.
Ah.
Voilà. Mmh. Ouais. Mais bon, à l'origine, les vaches, c'était pas pour ça. C'était pour les vers de terre. Parce que les plus grands alliés des sols, qui disparaissent aujourd'hui par milliards de tonnes, ils sont beaucoup plus lourds que nous, les vers de terre, sur la terre.
Oui.
Ils l'étaient. Et aujourd'hui, comme les terres sont asphyxiées, enfin, je vais pas vous la refaire, vous la connaissez.
Il y a moins de vers de terre.
Voilà, il y a plus de vers de terre. Et les vers de terre, c'est essentiel parce que ça fait des galeries qui rendent les sols perméables et qui assurent donc des réserves d'eau aux vignes qui mûrissent donc sans forcer, en persillant.
C'est intéressant.
On y revient.
Et les vaches alors?
Et au début
La vache et le vers de terre.
La vache et le vers de terre, ce sont des bisous, je ne sais pas. Non, les vers de terre, ils sont dans les bouses. Et donc, alors, voilà. Et au début, comme plein de vignerons, enfin plein d'agriculteurs, Didier Barral, il épandait du fumier, voilà, fumier de vache. Et puis, en soulevant son fumier, vous voyez qu'il n'y avait pas de vie derrière, quoi. Parce que dans le fumier, il y a de l'urée. Et les vers de terre, ils n'aiment pas ça, le pipi.
Mm-mm.
Voilà. Alors que quand c'est les vaches qu'on met dans les vignes, elles défèquent à gauche, elles urinent à droite, et il n'y a pas de mélange.
Ça ne se mélange pas.
Il n'y a pas de pipi dans le caca.
D'accord. Donc
ça, ce serait bien.
Ça veut dire que la bouse est un milieu tout à fait favorable aux vers de terre.
La bouse, c'est la vie. La bouse, c'est la vie.
Mm-mm.
La bouse ou la vie, non?
Non, la bouse ou la vie, c'est mieux.
Beaucoup de gens chantent la bouse aujourd'hui. Depuis longtemps.
Et les gros vers de terre, c'est le top du ver. C'est les gros vers blancs, là.
Ouais, les gros lombris.
Voilà. Et donc, ils font des trous, eux, ils vont jusqu'à 30 cm pour aller se cacher dans le sol et se transformer en coléoptère. Voilà. Donc, il y a ceux-là qui descendent. Et à l'inverse, il y a les vers de terre qui remontent dans la bouse pour s'accoupler. Parce que sous terre, vous imaginez les galeries.
Chambre nuptiale, en fait, la bouse de vache.
Sous terre, ils se croisent pas. Ils peuvent passer à 10 cm de l'être aimé sans le savoir. Ah. Alors que là, bingo. La bouse, c'est un vrai lieu de rencontre, c'est un bistrot. Il dit que la bouse, c'est une discothèque.
On est pas plus pour rien.
Ah, mais il emmène tous ses importateurs à soulever les bouses. Et tout le monde s'en souvient.
Incroyablement.
Donc voilà, alors les vaches, elles réinventent Mythique, elles broutent l'herbe, elles alimentent les vignes, et en plus, elles sont super bonnes.
Oui, voilà. Tout gagné.
Tout gagné, et justement, du coup, il faut sortir les bouteilles. Voilà. Et il se trouve justement que le vin que fait Didier Barral, et le Faugère en général, ça a ce côté idéal pour la viande. Quoi. C'est un vin de viande, je pense, le Faugère.
Absolument.
Voilà, c'est déjà lui il fait des vins entiers qui parlent fort avec l'accent. Et puis on retrouve aussi ce sol de schiste roux. Les terres rousses parce qu'ils sont oxydés, ferreux. Il y a le côté ferreux un peu.
Dans des beaux amers sur la fin de bouche.
Ouais. Et puis ces cépages, donc c'est Grenache, Syrah, Carignan.
Ouais.
On dirait un tiers. Et le Carignan, il a toujours ce côté sanguin. Je trouve qu'il va bien à la viande.
Magnifique. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Apparemment, Arnaud a aimé.
Ah, mais il est absolument
très bon. Ça va très bien.
Moi, j'aimerais savoir si à l'atelier Vivanda de Akram Ben Halal, il y a corne cassée, en l'occurrence de Didier Barral. Il y a aussi le vin, du coup. On peut faire l'accord?
Est-ce qu'il a le vin? Il est pas très vin naturel, lui. Non, mais je pense qu'il l'a. Quand même.
Un budget pour cette bouteille?
On est à 24 euros.
D'accord.
Ça les vaut.
Vous
me devez.
Pas de traitement chimique, mais c'est super. On vous remboursera, c'est promis, même si le service public n'a pas tout à fait les moyens d'avant. Merci beaucoup, Sylvie Augereau. Belle histoire de vin et de bovin. On aime beaucoup ça. Je voudrais revenir avec Franck Ribière sur un argument et faire réagir nos invités autour de ce plateau. Un argument qu'on entend beaucoup dans votre livre, que vous développez en tout cas. Plus il y aura de végétariens, meilleure la viande sera. Vous êtes en train de dire que le front anti-viande pourrait rendre service à la qualité de la viande?
Ah oui, tout à fait, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui, de façon que ça soit les lanceurs d'alerte ou, j'irais, la prise de conscience de la nécessité ou pas de manger de la viande. J'irais, aujourd'hui, je ne mange pas de la viande, même si je suis un passionné, je ne mange pas de la viande tous les jours, je n'en mange même pas toutes les semaines, je n'en mange...
Donc vous-même qui êtes viandard, vous posez des questions sur votre consommation
de viande? Oui, je me pose la question sur la consommation de viande, et même pour mes enfants, évidemment.
C'est même pas une question, moi je pense que c'est une proprioception. Si on s'écoute vraiment, si on se ressent de l'intérieur, on n'a pas besoin de bouffer la bidoche.
Non.
Enfin, certains peut-être d'entre nous.
Ça fait du muscle un peu quand même. On n'a pas de diététicien sur le plateau, mais ça fait du muscle.
Oui, mais je veux dire, on n'en a pas besoin tant que ça. On a 4 canines sur 32 dents. Ça devrait nous donner un petit indicateur.
On ne peut mais alors, qu'est-ce que vous pensez? Mais si on pousse le raisonnement plus loin, que pensez-vous de ceux qui décident radicalement, entre guillemets, de carrément arrêter leur consommation?
Ils ont le droit. Ce qu'on ne peut pas, c'est décider de l'orientation alimentaire des gens. Je dirais, il y a eu des batailles sur des orientations, d'autres orientations qui ont mis les gens dans la rue.
Que mal fini.
Évidemment. Pourquoi choisir? Pourquoi mais décider pour les autres? Apprendre à accompagner les choix, ça c'est intéressant.
C'est la culture qui compte.
Voilà, et puis il y a aussi une chose, c'est que finalement,
Pascal Gourdois,
on est bien d'accord qu'aujourd'hui ces thématiques font réagir notamment nos éleveurs. On est dans un changement de cap, il est clair, et on voit bien de quelle manière, enfin on imagine assez bien de quelle manière on va évoluer, puisque ça va très vite à votre émission, mais on n'a pas parlé qualité, on n'a pas parlé bien-être, on n'est pas allé jusqu'au bout du sujet.
On a parlé que de ça.
Oui, mais c'est très compressé, c'est normal.
Évidemment.
Mais c'est pas grave. Mais ceci dit, il y a un vrai boulevard qui est en train de s'ouvrir. Refaire des paysans, on en a besoin. La période de malbouffe, on peut l'atténuer et on va y arriver. On va y arriver. C'est un vaste projet, mais si on le fait ensemble, ça devrait passer.
Voilà. Finissons par une petite note positive qui, évidemment, résonneront à l'oreille de nos auditeurs. Ce que vous estimez être le meilleur restaurant de viande de France, vous le révélez dans votre livre.
Ah oui, et très étonnamment, à Perpignan, ville qui évidemment n'est pas très connue pour sa viande. Évidemment. Oui. Le Diville, Stéphane et Élise Balouet, qui ont un restaurant assez extraordinaire pour d'abord leur approche, vin, viande, très intéressante, leurs produits et cette passion pour la viande qui fait que vous avez la possibilité de choisir l'origine de votre viande. Plusieurs sont proposés, on a de la française, de l'espagnole, de la locale, de l'anglaise et on choisit et on est ravis.
On va emmener notre ami Roland Feuillas.
Il doit connaître déjà, quand même, à mon avis.
Bah, il nous a jamais proposé cette étape carnivore.
Écoutez, on lui impose le prochain coup.
On va se joindre à vous.
Et ben voilà, et écoutez, on va y aller. J'avais un petit truc à dire qu'on a complètement oublié. Joyeux anniversaire, Arnaud Daguin. Oui, c'est aujourd'hui, on veut connaître votre âge. Non, je plaisante. L'homme, cet animal raté, vous teniez absolument à ce qu'on en parle.
Je voudrais qu'on parle de Pierre Jouventin.
Oui, mais.
Voilà. L'homme, cet animal raté, c'est un livre qui vient de sortir aux éditions Libre et Solidaire. J'enjoins tout le monde à lire ce bouquin-là.
On suivra votre conseil. Steak in France, c'est le livre de Franck Ribière avec Véran Frediani. Et c'est aux éditions de La Martinière. C'est bientôt d'ailleurs un documentaire. Pascal Grosdois, vos produits sont disponibles sur boeuf-l'éclair.com.
Vous êtes sympathique, boeuf-l'éclair.com. Voilà, livraison à domicile.
Oui.
Mon fils Pierre anime cette petite entreprise qui se développe gentiment.
Pour manger de la bonne viande, toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dans un instant, question politique animée aujourd'hui par Frédéric Mettezo. La semaine prochaine, une émission aux fines herbes. Une maraîchère bio de l'Est et un chef breton partagent leur passion des plantes aromatiques. Merci beaucoup Sylvie Augereau.
Et nous.
Merci Arnaud Daguin, à la prochaine.
Plaisir.
Merci Pascal Grosdois.
Merci à vous.
Franck Ribière, merci.
Merci à vous.
Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.